Cinérama.
Cette nuit, notre plastron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à poutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je suis porté.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste, les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Bonjour, nous sommes le mercredi 22 mai. Bonjour Marine, bonjour Manu.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Nous n'avons aucune info croustillante à rapporter de Cannes, j'imagine.
Non, voilà, absolument
pour l'instant,
pas.
Pour l'instant, nous n'en avons pas. De quoi allons-nous parler aujourd'hui, justement? Alors, d'un film qui a fait l'ouverture à Cannes.
Ben, le film de Baz Luhrmann, Gatsby le Magnifique, d'après le roman de Fitzgerald.
Et puis, tu parleras aussi de Paperhouse.
Un DVD en fait, qui vient de sortir, The Paperhouse, un film fantastique.
Ça, ce sera en fin d'émission. Et puis toi, Marine
Et moi, bien qu'il ne faille pas revenir sur le passé, je vous parlerai du nouveau film de Asghar Farhadi, qui est aussi à Cannes, en compétition cette fois.
Effectivement. Et puis, on aura aussi à l'occasion de Gatsby le Magnifique, qui n'est pas vraiment un remake, mais presque.
Oui.
Parce que de toute façon, il y a eu plusieurs films donc, qui s'intitulent Gatsby le Magnifique. On fera un blind test spécial remake. Et puis, ce sera aussi l'occasion de le faire parce que Guillaume Canet sort son remake américain. Voilà.
D'accord. Et puis, on a vu Evil Dead.
Aussi, allez, voilà. Voilà, blind test spécial remake. C'est Cinérama et tout de suite Song for Marion.
Qui êtes-vous ?
Cinérama.
J'ai pas très bien saisi.
Sur Divergence FM.
Après Amour, après Quartet, voici un nouveau film avec des personnes âgées. Pas exclusivement, mais beaucoup quand même. Et disons-le, Amour d'Anneke Mellet, Trintignant et Riva, deux grands acteurs du cinéma français. Et c'est un peu le même casting pour ce Song for Marion, puisqu'on retrouve Vanessa Redgrave, qu'on a vu dans Blow Up de Antonioni, et Terence Stamp, qu'on a vu dans Théorème de Pasolini, mais il a aussi fait des apparitions dans Superman, Priscilla, Folle du Désert. Et moi, je l'avais remarqué dans L'Anglais de Soderbergh. Alors si les deux acteurs anglais ont joué dans de grands films, ici on ne pourra pas en dire autant. Alors je vais me contenter de vous lire le pitch pour que vous sentiez de suite la portée de ce scénario qui n'a rien d'original. Arthur et Marion, couple de retraités londoniens, sont profondément unis malgré leur caractère éloigné. Alors si Marion est positive et sociable, Arthur est ronchon et dur, sauf quand il s'agit de s'amuser avec ses potes. Alors il n'arrive pas à comprendre l'engouement de sa femme à chanter dans une chorale d'un centre social en compagnie d'autres personnes âgées, une chorale menée par Elisabeth, une trentenaire seule dans l'existence qui se félicite de voir autant de sourires devant elle. Alors elle y met du peps dans cette chorale en proposant des titres pop quand d'autres chorales restent classiques. La chorale a même postulé au festival des chorales. Tant qu'à faire, ça redonnera du tonus à tout le monde. Et pour Arthur, forcément, lui le ronchon, c'est perdu d'avance et il trouve ça complètement nul. Mais puisque sa famille tient, il va serrer les dents. Posé comme ça, un homme dur et ronchon, quand sa femme est gaie et positive, on sent que, que très vite il va se passer un bouleversement et que l'homme va devoir changer. Il y a beaucoup de poncifs et quelques incohérences dans ce Song for Marion qui est volontiers pousse-larmes, passant du sourire complice à la séquence grave. Car pour corser un peu le tout, il ne suffit pas qu'Arthur soit ronchon, il estime aussi qu'il n'a rien à dire à son fils. Un fiston qui se demande où est passé l'amour paternel depuis longtemps. Précisément, il ne se le demande plus, il s'habitue à cette situation. Alors il ne manquerait plus que les deux hommes se retrouvent seuls, Arthur séparé de sa femme et son fils sans père ni mère. Oui, il ne manquerait plus que ça. Alors il faut beaucoup de talent aux trois acteurs principaux, le couple et la meneuse de chorale pour faire tenir le film avec ce scénario qui n'est pas très subtil et qui oscille maladroitement entre pathos, contenu et légèreté. Les acteurs font doucement passer la pilule et on se surprend à accompagner cet Arthur qui, tel un roc, fait tout pour garder le cap, comme il le dit, mais qui finit, comme on s'y attend, par ouvrir son arc-en-ciel. C'est aussi une des séquences parce qu'ils ont chanson avec un arc-en-ciel et c'est destiné à cet Arthur. C'est vite dit donc, mais c'est le seul personnage qui a de l'importance et qui a un minimum d'épaisseur. Les autres sont de simples faire-valoir et n'évoluent absolument pas. Les membres de la chorale se contentent de chanter, de nous faire rire en balançant une bonne vanne ou en se bloquant le dos en voulant faire du breakdance. Et oui, c'est un film anglais. L'épouse, elle, s'amuse presque de son mari et profite de la vie tant qu'elle le peut. Le fiston, lui, subit. Alors, il y a des rayons de soleil dans cette comédie teintée de drame. Tout est organisé pour faire mouche, qu'il s'agisse de tirer une larme. Il est question de mort, la relation père-fils. Ils sont irréconciliables alors qu'il suffirait de parler. nom de là. Donc il y a aussi du sourire, il y a des larmes du sourire, mais c'est sans surprise et malheureusement avec une mécanique narrative et formelle vue et revue. En tout cas, Song for Marion de Paul Andrew Williams est sorti la semaine dernière et c'était au Diago. En revanche, alors on retrouve dans cette chorale des chansons très très pop. Alors il y a une espèce de décalage entre ces personnes âgées qui chantent des chansons qui ne sont pas forcément de leur génération et dont celle-ci. Voilà, B-52s, donc Love Shack, interprété par la chorale dans Song for Marion.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, je vous dis, et même saloperie. Hein.
Sur Divergence FM.
À première vue, le nouveau film de l'Iranien Asghar Farhadi ressemble fort à son précédent succès, Une séparation. Le passé, actuellement en compétition à Cannes, commence de la même manière. Un couple décide de se séparer et d'officialiser son divorce. Mais cette séparation va alors faire ressurgir bien des choses cachées et des secrets. Marie accueille son ex-mari iranien dans la maison où elle vit à présent, avec celui qu'elle épousera bientôt, ainsi que les enfants qu'elle a eus de ses précédentes unions. La cohabitation quasi huis clos ne va donc pas tarder à dégénérer.
Votre décision de divorce est-elle irrévocable, madame ? Et vous, monsieur, est-ce que votre décision est également irrévocable ?
Oui. Tu vis avec quelqu'un ?
Tu t'es pas demandé pourquoi je te fais venir officialiser le divorce ?
Il est arrivé ?
Ouais. Depuis que je suis née, ça fait 3 fois que ma mère change de mec. J'ai pas envie de voir ce con à chaque fois que je rentre chez moi.
Ta mère a le droit de vivre avec qui elle veut.
Ça fait 2 mois qu'elle m'emmerde pour des conneries. Peut-être que tu peux lui parler.
Ma mère t'a rien dit.
Attends.
Qu'est-ce qu'il y a, Matt ?
Elle a l'air d'être au courant de tout.
Je veux pas qu'ils soient ensemble.
Tu penses que ça dépend de toi et moi ?
On doit rentrer à la maison pour l'instant.
Tu m'as dit que notre maison, c'était là-bas. Pour toujours.
Toi, tu dois rester ici avec moi.
Ce serait pas cette petite détruire sa mère.
C'est un malentendu.
Mais c'est quoi ce malentendu de merde qui pourrit nos vies depuis des mois ?
Faut qu'elle rentre, qu'elle vienne poser ses fesses là et qu'elle voit la merde qu'elle a foutue dans ma vie.
Soit tu gardes ça pour toi et tu vis un calvaire jusqu'à la fin de ta vie. Soit tu dis tout à ta mère. Elle a le droit de savoir.
Alors, on ressent quand même à la vision du film cette étrange impression que Farhadi présente tous les tics du cinéaste étranger qui, suite à un immense succès en France, déciderait de réaliser le parfait film d'auteur parisien. Suite au désistement de Marion Cotillard, il choisit donc Bérénice Bejo pour interpréter le premier rôle. Bon, autant dire qu'il a pioché dans la liste des comédiennes les plus en vogue. Il lui associe son alter ego masculin césarisé, Tahar Rahim, et filme un Paris gris et pluvieux à souhait qui respire la dépression et les anxiolytiques. Malgré cette mercantile impression de départ, la sauce prend rapidement. Les comédiens, en particulier les 3 enfants, sont excellents, les dialogues percutants et malgré une photographie austère, la mise en scène au regard du sujet de la maigreur de l'action est virtuose. On regrettera peut-être un léger goût de répétition, des situations qui recommencent et des scènes où l'on frôle l'impression de tourner en rond, le tout ponctué par de perpétuelles révélations qui s'avèrent surtout frustrantes puisqu'elles n'aboutissent à rien. Cette frustration sera néanmoins compensée par une scène finale qui vaut à elle seule d'aller voir le film, une scène terriblement belle et délicate. Le passé est un film qui parle de pardon, de doute et de retour. Le pardon que l'on apprend aux enfants mais que les adultes ont tant de mal à mettre en pratique. Le doute qui subsiste toujours, que l'on voudrait faire disparaître à coup de révélations et de sincérité plus ou moins feintes. Et le retour. Le retour de ceux qu'on a aimés, le retour de ceux qui sont morts, le retour sur son passé et le retour physique. des personnages qui systématiquement sont filmés en train de marcher, de s'arrêter, puis de faire demi-tour, matérialisant leur hésitation et leur rattachement à ce passé qui empêche leur futur et façonne leur présent. Avec le passé, Asghar Farhadi nous parle à nouveau de rupture avec cette thématique du pardon, du doute et du retour, donc les trois composantes finalement d'une séparation. Je pense qu'on peut à présent dire que le passé est une future palme d'or.
Ah
ok,
oui,
j'arrête les blagues sur le passé.
Puis...
Oui, c'est un petit peu les rumeurs qui commencent
à
Cannes.
Déjà,
oui.
Ah bon.
Bon, après, c'est les premières rumeurs. Ça a été un des premiers films présentés en compétition. C'est sorti en salle. Ça a été précédé d'un très bon bouche à oreille. Ça a continué dans cette voie.
Oui, mais on avait dit ça pour De Rouillé d'Os l'an dernier. Et puis,
tout à fait. Oui.
C'était 0-0-0. Et puis tu vas soigner ton chat persan qui est dans la gorge. Ah oui, et oui.
Oh thématique de la blague aujourd'hui dans Cinérama.
Absolument. Tout de suite, c'est Gatsby le Magnifique avec le blind test à suivre.
Cinérama. Cinérama. Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Bah, autant que vous le dire tout de suite, j'ai jamais lu le livre de Fitzgerald. Alors je sais pas si.
Nous non plus.
Vous non plus. Si ? Bon. Non. Et je suis passé aussi à côté de l'adaptation de Jack Layton, qui était avec Robert Redford, un film de 1974. Donc on a tendance à l'oublier, mais le roman, véritable institution aux États-Unis, a été porté de nombreuses fois à l'écran, et ce dès 1926, sachant que le livre date de 1925. Il est tombé dans l'oubli pendant 30 ans, mais et est réhabilité à partir des années 50. Mmh. Voilà pour l'histoire. L'un des mérites, et pas des moindres, du nouveau film de Baz Luhrmann, c'est qu'il donne furieusement envie de se plonger dans le roman. Non pas que cette version modernisée d'un des classiques de la littérature du XXe siècle soit une réussite éclatante, mais l'histoire passionnante, centrée entièrement autour d'un personnage mystérieux, ambigu, comme on en voit peu au cinéma, incite à découvrir le livre. Finalement, appréhender un tel film avec un regard vierge n'est peut-être pas plus mal, afin d'éviter l'exercice un peu périlleux d'aller-retour comparatif entre la source et son adaptation, toujours en fait au désavantage de cette dernière, surtout quand il s'agit d'un monument comme ça de la littérature.
New York, 1922. Le tempo de la ville avait changé, radicalement. Les gratte-ciels s'élevaient plus haut, les soirées frappaient plus fort, les mœurs tombaient plus bas et l'alcool coûtait moins cher. Un bouillonnement frôlant l'hystérie.
Vous me suivez ?
Gatsby.
Dites, vous le connaissez ?
Un héros de guerre.
Monsieur Gatsby n'existe pas.
Gatsby ? Mais quel Gatsby ?
Navré de vous déranger, mais Monsieur Gatsby désire s'entretenir avec vous. Seul à seul.
Dès les premières images, il faut bien se rendre à l'évidence, le style de Baz Luhrmann ne fait pas dans la dentelle. Son Gatsby ne manie pas l'art de la litote, de l'ellipse et de la délicatesse. Il s'agit vraiment d'une grosse machine hollywoodienne, outrée et clinquante, assez superficielle, mais diablement séduisante. Le parti pris des auteurs est d'en mettre plein la vue. La vision des années folles selon Luhrmann est virevoltante, colorée, excentrique et pop. La caméra balaye avec virtuosité un décor somptueux. La bande-son intègre aussi bien du Beyoncé ou Lana Del Rey, au rythme des foxtrots. Assez curieux parfois les mélanges. Le montage, moins épileptique que dans Roméo et Juliette ou Moulin Rouge, retrouve le rythme des meilleures comédies musicales. Du moins, dans une première partie, proprement étourdissante, où la 3D instaure même une sensation de vertige. Le parti pris, quoi qu'on en pense, est audacieux. Accoler les techniques réservées aux habituels G.I. Joe ou Iron Man à un monument de la littérature classique a de quoi surprendre. Le réalisateur relève le défi avec enthousiasme, un enthousiasme qui est communicatif. Et il retrouve une certaine folie des beaux mélos des années 50, signés notamment par Douglas Sirk. Ces films assez aberrants où le surlignage esthétique confinait parfois au mauvais goût, mais parvenait le plus souvent à retranscrire les émotions des personnages. Des tourments, de l'émotion, il y en a dans Gatsby, qui est avant tout une magnifique histoire d'amour impossible et surtout à sens unique. Millionnaire au passé trouble, mythomane notoire qui s'est littéralement construit un passé pour échapper à ses origines modestes, Gatsby a construit un monde chimérique par amour. Il a voulu s'élever dans les plus hautes sphères pour conquérir Daisy, marié à un aristocrate antipathique, génialement interprété par un acteur que je ne connaissais absolument pas, Joel Edgerton, qui est assez sensationnel dedans. Le film, long flashback étourdissant, est raconté selon le point de vue de Nick Carraway, interprété par Spider-Man, Toby McGuire, le cousin de Daisy, littéralement fasciné par Gatsby, qui porte ici évidemment les traits d'un Leonardo DiCaprio au top de sa forme. Il est réellement impressionnant et de film en film, l'ex-jeune premier prend une épaisseur assez inédite. Oui, une épaisseur aussi...
Oui, bah, c'est normal. Hein.
Et il est un peu enveloppé maintenant. Hein.
Ah oui, carrément.
Enveloppé. Pas enveloppé, non, j'exagère.
Ah, il est poupon, il a... Ouais. Oui.
Alors l'attirance de Nick pour Gatsby n'échappe pas au sous-texte gay, ce qui était apparemment fortement accentué dans le script de Truman Capote pour l'adaptation de Clayton, Truman Capote étant lui-même gay, donc c'est un peu logique. Mais bon, elle reste ambiguë, contamine le spectateur, subjugué devant la folie d'un personnage complexe et touchant au final. Bref, Gatsby le Magnifique, c'est un peu une super production que je trouve assez atypique par les temps qui courent, puisque toutes les grosses productions sont généralement des films de SF ou des suites ou des films de super-héros. Voilà.
Mais c'est... là, on voit, pour avoir vu juste la bande-annonce, on voit qu'il y a une débauche de moyens.
Oui, c'est vraiment une super production.
Des couleurs partout.
Et donc, l'utilisation de la 3D n'est finalement pas si surprenante. C'est pas si surprenant que ça que le film sort en 3D. C'est un peu un compromis entre le gros blockbuster et puis le film hollywoodien classique tel qu'on en faisait dans les années 50.
Donc, à voir en version française et version originale, on a le choix.
Oui, il passe partout.
Dans tous les cinémas, voilà. Oui, ici. Alors, ça nous donne l'occasion de jouer donc au blind test. Alors attention, chers auditeurs, vous avez des extraits et puis bien il suffit de trouver. Eh bien, quel est ce remake ?
Quelqu'un l'a tué. Quelqu'un présent sur l'île ce jour-là. Une personne assez proche pour savoir ce qu'elle avait l'habitude de m'offrir tous les ans pour mon anniversaire. Elle m'a offert cela. Et les autres m'ont été envoyés par son assassin.
Alors, petit indice, c'est une île, voilà, il y a... Le monsieur, il reçoit une espèce d'herbier, enfin, tous les ans.
Un herbier ?
Enfin, je crois que ça s'appelle comme ça, enfin, oui.
Oui, des plantes séchées.
Une plante séchée dans un cadre.
Ah, c'est pas Millennium ?
Oui, bravo. Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, hein, de David Fincher, en 2012, qui était un remake d'un film qui était sorti en 2009, mais qui était suédois, qui avait le malheur d'être suédois. Et ça, pour les Américains, ce n'est pas possible. Deuxième extrait.
Quels sont tes desseins, mon frère ?
Semer la terreur chez les mortels. Ils se remettront à prier et tu baigneras dans des flots de dévotion nés de leur peur. Alors, nous retrouverons notre puissance.
Sa place est dans le royaume des enfers, non dans celui-ci.
Tu n'as pas à me dire où est ma place. Pour toi, seul l'amour alimente les dieux. Mais tu es esclave de celui des hommes. Moi, je n'ai appris à me nourrir que de leur souffrance, de leur peur.
Zeus, notre frère parle vrai. Entends-le.
Va. Fais comme bon te semble.
Père, nous avons besoin des mortels.
Non, Apollon. Hadès dit vrai. Ils doivent payer leur insolence. Tels les enfants, ils ont besoin qu'on leur rappelle l'ordre des choses. Fais un exemple, mon frère. Dresse-les les uns contre les autres. Que prier soit leur seul refuge.
Qu'ils sont méchants, ces dieux. Et
oui,
vous avez trouvé.
Oui, je crois qu'Apollon et moi-même avons trouvé en même temps.
Donc c'est le Choc des Titans de Louis Leterrier, hein, un remake du Choc des Titans qui avait été tourné en 81. Voilà.
Allez, avec les effets spéciaux de Ray Harryhausen qui est mort la semaine dernière.
Oh.
Voilà.
On va pas faire une minute de silence parce qu'en radio ça serait pas...
C'est pas possible.
Terrible.
Allez.
On est où exactement ?
Ça, c'est un ballast. On remplit les ballasts d'eau pour que le bateau soit stable. Cette vanne donne sur le ballast d'un côté. C'est donc peut-être notre porte de sortie.
Pourquoi peut-être ? Il y a un autre moyen de sortir.
Une vanne à soupape. Elle ne peut s'ouvrir que sous l'effet d'une énorme pression. Ne me dites pas qu'on est pris au piège ? Non, non, elle peut s'ouvrir.
Comment ?
Eh ben, en noyant ce réservoir.
Quoi ?
C'est ça. Dis-la !
Non !
Maggie, reculez ! Vous êtes prêts ? Reculez !
Je ne s'agirai pas !
Allez, reculez ! S'il vous plaît, reculez !
De l'eau partout. Ça a été trouvé.
Poséidon.
Ah voilà, oui.
Oui, moi, vous avez conclu un pacte avec le réal pour parler du film au moins une fois par mois dans un blind test.
C'est pas le même film. Ah, oui. On a parlé de l'aventure du Poséidon la dernière fois.
Dans un des précédents blind test, effectivement, c'était l'aventure du Poséidon, hein, réalisé en 72, un des premiers films catastrophe. Et puis là, c'est Poséidon de Wolfgang Petersen, dont le montage est quand même assez calamiteux, je trouve. Un nouvel extrait, c'est pas facile. Je vous dirais que il est question de beaucoup de poils dedans, mais là, on va pas l'entendre.
Bah, King Kong ?
Le plus fiable qui soit, je fais des films, je suis producteur. Croyez-moi, je suis plus franc que franc. Aucune fourberie ! S'il vous plaît, asseyez-vous. Anne, imaginez, voulez-vous, un explorateur bourré de charme voguant vers l'Asie.
Votre film sera tourné en Asie.
Singapour. À bord, sur le pont, il remarque une mystérieuse jeune fille. Elle est magnifique. Elle est fragile, torturée. Et elle ne parvient pas à se défaire du sentiment que des forces incontrôlables la poussent à suivre un chemin bien précis, dont elle ne peut absolument pas s'écarter. Comme si toute son existence n'avait été que le prélude à cet instant. Cette rencontre décisive qui va tout changer. Et comme il se doit, contre toute raison,
elle tombe amoureuse.
Exact.
Mais sans illusion aucune. Croit-elle seulement en l'amour? Au fond, elle n'en sait rien.
Vous croyez?
Le simple fait d'aimer quelqu'un est sans espoir.
Pourquoi cela?
Le bonheur ne dure qu'un temps, monsieur Denham.
Vous êtes donc intéressé. Parfait, affaire réglée. Sans vouloir vous bousculer, nous avons des impératifs de date à respecter.
Non, mais vraiment, je...
Anne, je vais être honnête. Vous êtes parfaite.
Relève. Voilà, donc ça c'est bon, c'est un extrait où effectivement il parle beaucoup. Hein. C'est avant le voyage vers l'île et donc ça a été trouvé par Marine.
Ah oui, j'ai atteint un tel niveau maintenant en blind test que je trouve avant même que l'extrait ne commence. Quoi.
Ouais, c'est... Il suffit de te mettre le petit indice poil et tout de suite c'est
King Kong. Poil. Bon. Trouvé.
Donc King Kong de Peter Jackson, film de 2005. Et puis bah, c'est un remake du King Kong de 1933.
33, oui.
Et
il y en a eu un autre. On a pas de 76. Oui, voilà, avec Jeff Bridges.
Voilà. Alors après, certains ont crié au scandale, mais comment ça? Le 33, celui de 33 reste.
Qui est très bien, hein, mais bon.
Dans mon cœur. Voilà. En tout cas, des effets spéciaux qui étaient assez bluffants hein, pour ce King Kong de Peter Jackson. Encore un nouvel extrait.
Mademoiselle, je pense vous parler, s'il vous plaît.
Attends, il y a un mec qui.
Allez, mademoiselle, il faut que je vous parle.
Ok. Je t'embrasse. On se voit demain. Copies out. Quoi?
Niskov me doit de l'argent.
Et alors, qu'est-ce que ça peut me foutre?
Les deux grands singes qui sont avec lui, sont toujours avec lui?
Je vous connais pas, j'attends de vous parler.
Mais, oh, je vous pose une question, vous pouvez me...
Tu me touches pas. Ok.
Je veux juste un rendez-vous avec Niskov.
Tu sais quoi, tu commences à me saouler. Niskov, j'en ai rien à foutre. D'ailleurs, tu vas rire. Il suffit que je l'appelle. Et t'es mort.
Ah, j'ai compris. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que tu restes avec lui, c'est pour pouvoir dire des trucs comme « Je l'appelle, t'es mort
ouais. ».
C'est ça, ça te fait kiffer de dire des trucs comme ça.
Mm-hmm.
Ouais, je comprends, mais c'est pas plutôt le contraire, non? T'as les boules, t'es morte de trouille, t'es terrorisée. Mm. Regarde, tu trembles, t'as la chair de poule.
Ouais, c'est fou.
T'oses même plus respirer sans lui demander la permission.
Hein? T'as fini? Allez, tu vas te faire foutre.
Voilà, ça c'est du bon dialogue à la française. Alors, ça a été trouvé?
Bah, de battre mon cœur s'est arrêté.
Tout à fait, de Jacques Audiard, donc, qui est un remake de...
Mélodie pour un tueur,
oui,
c'est ça? Mélodie pour un tueur, un film avec Harvey Keitel.
C'est après la piscine.
C'est la scène dans la piscine, enfin, dans,
après,
le, dans après. La piscine couverte. Là.
Après la enfin, piscine, après. Et puis après, ils vont dans les WC, machin, nanana, voilà, vous pouvez...
Vous pouvez vous procurer louer
le DVD. Dernier
juste.
Extrait, c'est parti.
Nous faisons une musique religieuse, pour ainsi dire.
Du gospel?
Disons, inspiré par le gospel, sans aucun doute. Les pièces les plus récentes remontent au rococo.
Au rococo? Bon, ça devrait aller.
Mais il n'est évidemment pas question de vous infliger nos répétitions quotidiennes. Oserais-je une question? Est-ce que vous auriez une cave? Oh. Oui. Oui. Ça ouvre des perspectives.
Un peu maintenant.
Certes, mais l'acoustique n'en sera que meilleure. Oh, oh, oh oui. Merveilleux. Oui. Oh, il n'y a rien de tel que ces murs de terre pour mettre en valeur toute la tessiture du luth ou de la sacobute. C'est pour cela que toutes ces musiques du Cinquecento étaient souvent données dans des cryptes et des catacombes. C'est l'idéal. C'est parfait. C'est plus que parfait. J'ai du mal à contenir ma joie.
Oh, vous la contenez très bien.
Oui, pardon, Manu?
Non, je sais pas.
Alors, soit c'est du Walt Disney, soit du Tim Burton, soit un film porno. Je sais pas.
Ouais, ça aurait pu être un film porno, mais non. C'est Tom Hanks qui parle beaucoup, 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 beaucoup donc à une femme noire qui va leur donner une chambre plus une cave. Et lui, bah, il vient avec une chorale, et puis au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe ? Lady Killers !
Oh.
Eh oui, des frères Cohen. Hein, donc,
un des plus mauvais, d'ailleurs.
Bah, oui, ah, c'est oui, ce que oui. Tout le monde dit, voilà, et pas, en tout cas pas meilleur que le film original de 1955. Ainsi s'achève ce blind test. Rendez-vous pour un prochain blind test dans une prochaine émission.
Avec Poséidon.
Si vous aimez les essuie glaces et les tranquillisants sur pellicule.
Cinérama.
Je suis allergique.
Sur Divergence FM.
Paper House. Donc présenté dans de nombreux festivals, notamment à Voriaz en 89, jouissant d'une cote de popularité critique, Paper House fut pourtant un échec cinglant, le privant d'une sortie en salle dans nos contrées. Une sortie VHS à la sauvette, affublée d'une VF catastrophique au début des années 90, permit au film de se faire connaître auprès du public. Une injustice enfin réparée avec une belle édition DVD, puisque le film sort chez 7-7 ou Metropolitan. Voilà, il vient de sortir la semaine dernière. Il s'agit d'un très beau film sur l'imaginaire de l'enfance. C'est adapté de Marianne Dreams de Catherine Storr, c'est une sorte de Françoise Dolto british apparemment. Paper House nous plonge dans le monde d'Anna, une jeune fille de 11 ans, découvrant qu'elle peut s'immerger dans un univers parallèle grâce à ses dessins, plus précisément une maison où vit un petit garçon qui ne peut pas marcher. La maison dessinée sur une feuille de papier se matérialise dès qu'Anna s'endort ou s'évanouit. Les liens entre rêve et réalité vont se resserrer, telle une version enfantine pleine de poésie des griffes de la nuit. Bernard Rose détourne l'origine du roman clairement destiné aux enfants en y intégrant des éléments inquiétants, des visions angoissantes, voire carrément cauchemardesques en fin de parcours. Cet aspect un peu hybride peut désarçonner tant le film semble s'adresser à un public, il ne semble pas s'adresser à un public déterminé. La raison, à mon avis, de que les distributeurs français n'aient pu distribuer le film en salle. Je crois qu'il a même failli, il aurait écopé d'une interdiction moins de 12 ans alors que le film s'adresse vraiment à un jeune public en même temps. Enfin, c'est un peu étrange. Bon, c'est pas une raison de passer à côté de ce très beau film nourri de références littéraires, picturales et psychanalytiques. Bernard Rose, connu jusque-là pour ses compétences de clipper, le relax de Frankie Ghost Hollywood, c'est lui. Il se met au service du récit grâce à ses aptitudes en matière de composition du cadre, de mouvement de caméra. C'est en habile faiseur d'images, il évite en fait l'écueil de la plupart des clippers de sa génération qui consiste à faire bouger la caméra un peu partout. Rappelez-vous des films comme Highlander ou Electric Dreams. Enfin, je dis ça, mais actuellement, c'est encore pire en matière de frénésie et de montage.
Oui, c'est clair.
C'est encore pire. Donc, c'est vrai que quand on revoit Highlander, finalement, c'est assez tranquille aujourd'hui. Revenons à nos moutons, comme dirait le Petit Prince. Autre référence qui doit imprégner ce joli conte, plus sombre qu'il n'y paraît, loin des visions disneyennes sur le monde de l'enfance. Voilà, tout n'est pas parfait, les comédiens n'ont guère de relief, la musique est plutôt datée, pourtant signée Hans Zimmer, qui deviendra un des grands compositeurs, notamment de Gladiator. Et puis, le film est un peu empreint d'un symbolisme un peu lourd. Mais à mon avis, ne ratez pas ce film qui est signé par Bernard Rose, qui réalisera aussi Candyman, un autre film fantastique. Mmh. Et puis après, il va un peu s'embourber dans des films beaucoup plus académiques, comme Ludwig, sur Beethoven, et puis Anna Karenine avec Sophie Marceau. Mmh. Voilà, un revirement de carrière assez inattendu, en fin de compte.
D'accord. Donc, sorti en DVD la semaine dernière.
Cinérama.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes ?
On termine avec l'agenda, avec demain jeudi 23h-20h, les vignerons indépendants qui feront leur cinéma au Diagonal. C'est la saison 5, c'est des courts-métrages sur l'univers du vin avec une dégustation à suivre. Utopia, ce sera un autre monde, hein, puisque ce sera le nucléaire militaire en question avec la projection du film Pluie Noire de Imamura à 20h. Et puis après, ce sera suivi d'un débat. Au Diagonal, le vendredi 24 à 17h55, Enfermé vivant de Félix Gonzalez, c'est proposé par le GENEPI, hein, le groupement étudiant national d'enseignement aux personnes incarcérées, et le réalisateur sera là aussi. Le vendredi 24, cette fois-ci, au Comédia, ce sera Femme de chambre de Louise Bunuel dans le cadre du Ciné-Club, c'est à 20h30. Mardi 28 mai, au Diagonal, à 19h45, La Talente de Jean Vigo. Alors, c'est une séance présentée par Luce Vigo, qui est la fille de Jean Vigo et qui est aussi cinéaste. Et puis, on retrouvera aussi François Ami de la Bretec, qui est professeur de cinéma.
Qui fut le mien.
Qui fut le mien aussi.
Ah ben voilà.
C'est dire son âge.
Alors, et puis, l'Utopia, en avant-première, le même soir, le mardi 28 à 20h, c'est un programme de 4 courts-métrages tournés en région Languedoc-Roussillon. Et ce sera en présence des réalisateurs. Donc voilà, 4 courts-métrages, ça peut être pas mal d'aller voir ce qui se fait. Et tu y seras, Marine, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Bon, eh bien, vous pourrez voir Marine.
Venez !
Elle sera habillée en jaune poussin.
c'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Ainsi s'achève Cinérama. La semaine prochaine, nous parlerons probablement de Cannes.
Et à suivre, l'émission 24 notes secondes sera consacrée cette semaine à Henri Mancini. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Cinérama.
Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien des combines et de la merde. Il n'y a pas de saint. Il n'y a pas de génie. Rien que des combines et des contes de fées. Ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.